Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. J'espère que vous allez bien. Voilà, je pense que plusieurs me connaissent. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas dans ce lieu? Bernard, Marie-Paul, très heureux de vous voir ce soir sur Arles. Non, tu me connais quand même puisqu'on a été voisins durant quelques années lorsque vous étiez sur Martigues. Très heureux de revoir Hélène aussi. Voilà. Avec qui on a partagé de bons temps dans la parole de Dieu, dans la prière, lorsqu'on était sur Istres et sur Saint-Martin. Hein, ça nous rappelle de bons souvenirs, tout cela. Voilà, et puis très heureux de revoir quelques-uns que je connais. Hein, voilà, maintenant, ça commence à faire quelques années que je viens de temps en temps, je passe sur Arles. C'est toujours pour nous une grande joie que de vous retrouver, que de vous voir fidèles dans l'œuvre de Dieu. Et c'est bon. Ah, mais je vois qu'il y a Monique. Je ne t'avais pas vu, Monique, aussi. Salut, Monique. Elle se cache derrière Hélène. Et une grande joie de venir au mieux de vous. Et puis également de retrouver Cyril et Rosetta, puisque maintenant, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Cyril et Rosetta. Cyril, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Aquitaine. Il était sur Saint-Junien. Nous étions sur Tulle, enfin ils étaient sur Saint-Julien avec Rosetta et on avait eu un premier contact sur Tulle qui s'était bien passé, une grande joie. On s'était découvert des points communs. Vous savez qu'on a un point commun avec Cyril? Bon, bien sûr, on est pasteurs tous les deux, vous avez compris, ça c'est sûr. Hein. Mais on est tous les deux des anciens boulangers. Hein? Alors j'aime bien, la première fois que j'avais reçu Cyril sur Tulle, il parlait à l'auditoire, il avait dit à l'auditoire, voilà, on est deux anciens boulangers et le Seigneur nous a sortis d'un pétrin pour nous en mettre dans un autre. Hein? Tu te souviens, Cyril? Hein? C'était un petit peu son expression. Alors il m'est arrivé de la reprendre souvent, voilà, donc c'est un petit peu mon mentor, voilà, je m'inspire de Cyril. Voilà, c'est vraiment une grande joie que de passer ces moments avec eux. Parce que, eh bien, on a suivi un peu leur parcours, ils ont suivi notre parcours, et ce soir, eh bien, ce parcours nous conduit jusqu'à Arles, au milieu de vous, et très heureux de partager ces moments. En ce moment, donc, nous sommes sur Marseille-Kléber, je pense que vous devez le savoir. L'église de Marseille-Kléber, c'est une église, eh bien, qui travaille dans un quartier qui n'est pas facile, puisqu'il est à 80% musulman. D'ailleurs, hier, on avait la fête de la musique, on avait pu avoir la halle qui est à côté de l'église. Et là, on avait, sur l'auditoire qui était là, on avait environ 90-95% de musulmans qui étaient là. Alors, c'est un travail particulier, c'est un combat spirituel. On a pu mesurer qu'il y avait un véritable combat spirituel. Quelqu'un a prié pour les puissances qui sont là, qui tiennent souvent nos villes, qui tiennent souvent des âmes. Nous, on a peu mesuré un combat spirituel très fort lorsqu'il y a quelques mois en arrière, la mosquée principale de l'arrondissement du 3e a été fermée parce que l'imam qui était là était un imam qui était salafiste et qui a été arrêté et qui a été renvoyé dans son pays. Du coup, la mosquée a été fermée, et ce qui fait que les fidèles se sont éparpillés partout dans l'arrondissement, et au point qu'il y en avait tellement partout que juste à côté de l'église, on a un garage, et juste là, ils avaient fait une salle de prière. Et je peux vous assurer qu'on sent le combat spirituel. Mais le Seigneur fait une œuvre, vous savez, extraordinaire. Il est capable de changer le mal en bien. C'est que ces hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes, hein, qui étaient là, qui venaient, ils étaient environ 50, 60 à se réunir régulièrement dans cette salle de prière, amenaient leur petit garçon, le petit garçon de 7, 8 ans. Et les petits garçons, ils les laissaient dans la rue pendant qu'eux faisaient la prière dans la salle. Et les petits garçons entendaient la musique chez nous. Et pendant qu'eux faisaient la prière dans la salle, leurs enfants étaient chez nous en train de chanter des cantiques à la gloire de Jésus. Alors, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Mais ça a été un véritable combat. Et puis, voilà, bon, ils sont partis. Là, ça fait 2 mois qu'ils ont arrêté de prier. Et puis même, on est en train de réfléchir, on va peut-être nous racheter la salle de prière. Hein, donc... voilà, bon, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui travaille. On sait que Dieu est avec nous, et heureusement que Dieu est avec nous. Et je sais que Dieu est avec vous, Et je sais qu'il travaille aussi dans cette ville d'Arles, qu'il travaille dans cette église, qu'il travaille dans nos cœurs, parce que le Seigneur veut surtout travailler dans nos cœurs. Hein, je crois que Dieu veut nous préparer, Dieu veut nous disposer. Et je prie de tout mon cœur eh bien, pour que ce soir, le simple message que je voudrais déposer sur votre cœur puisse vous amener eh bien, à aller plus loin dans votre marche avec Jésus. Hein, s'il y en a qui ce soir sont dans ce lieu et pensent avoir déjà parcouru tout le chemin avec Jésus, eh bien, vous vous trompez. Je vois Bernard qui fait « Non, non, on n'a pas fini. » Pourtant, des années de ministère, tous les deux. Mais on sait qu'on a encore eh bien, du chemin à faire. On sait qu'on a encore à connaître de mieux en mieux. Hein, j'aime l'attitude de l'apôtre Paul qui était un homme rempli du Saint-Esprit, qui a vécu une expérience profonde avec Jésus. Mais cet homme, Paul, qui était un homme comme nous, de la même nature que nous, Paul eh bien, n'aspirait qu'à une chose, c'est de connaître de plus en plus Jésus-Christ, hein, de connaître la puissance de Jésus, de connaître la puissance de sa résurrection, hein, de connaître ce que le Seigneur était capable de faire, parce que, eh bien, il voulait avant tout manifester les œuvres du Seigneur, les œuvres de son Seigneur. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, eh bien, je pense que Dieu va nous bénir. Amen. Allez, j'ai mis un PowerPoint, alors je ne sais pas, j'espère que ça va marcher. Marcelin, je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Non, je m'appuie sur le Seigneur. Je compte sur toi pour le... Voilà, est-ce que ça apparaît? Ça va venir? Il y a une dame qui s'en occupait tout à l'heure. Vous l'avez fait disparaître, mon PowerPoint? Ouais, super. Il ne veut pas venir? Clique simplement dessus, peut-être qu'il viendra, mais tu l'auras pas toi, peut-être. Ah. Désolé, c'est du live, hein. Oui, on est en direct, c'est comme ça. Ah ouais, parce que j'avais mis une belle image de Camargue, hein, les chevaux de Camargue. Quand même, rien que pour ça, ça valait le coup. Hein. Voilà. Alors, je vous propose de lire un verset, ou au moins trois versets, que l'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Et on va lire ces versets dans la version du semeur. Donc, suffit de la petite flèche, peut-être, pour faire descendre. OK. Alors, nous lisons, pour cette même raison, « Faites tous vos efforts ». Alors ça, cette expression, tu l'as dit, je suis corse, c'est pas l'expression que je préfère, hein, faire des efforts, mais enfin bon. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Alors, dans vos versions habituelles, si vous avez plutôt la version seconde, c'est la vertu. Hein. Mais là, c'est la force de caractère, à la force de caractère, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu. Amen. Le titre de mon message est très simple, il est tiré de ce verset, c'est la suite, c'est la force de caractère, la force de caractère. Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire une œuvre dans notre caractère? Ah ouais? Vous n'avez pas l'air tous convaincus? J'espère que vous le serez à la fin de cette réunion. Moi, je crois que Dieu veut faire une œuvre dans notre caractère. Je crois que Dieu a le pouvoir, a la possibilité vraiment de changer notre caractère. Je pense qu'il peut agir au plus profond de notre caractère et nous aider à passer d'un caractère, parce que vous savez, le caractère, eh bien, parfois nous joue des tours. Parfois nous joue des tours. Je connais personnellement des gens que j'aime de tout mon cœur, des gens eh bien, avec lesquels on pourrait dire qu'ils ont un potentiel, qu'ils ont des possibilités, qu'ils ont des capacités, des gens vraiment eh bien, qui sont là et qui ont la possibilité de faire certaines choses, mais à cause de leur caractère, eh bien, ils sont quasiment inutilisables à cause de leur caractère. Il y a un frère sur l'église de Kléber, je le connais depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et il a toujours eu le même caractère. Pourtant, je peux vous assurer que c'est un frère qui a des dons, vraiment, qui a des capacités tout à fait extraordinaires. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout arranger dans l'église. Mais à cause de son caractère, il n'y a personne qui veut travailler avec lui. Il n'y a personne qui veut l'aider parce qu'il a ce qu'on appelle un sale caractère. Malheureusement, je lui ai dit l'autre fois, je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, tu sais, ça fait 20 ans que je te connais, tu as toujours les mêmes dons, tu as toujours les mêmes capacités, tu as toujours les mêmes possibilités, et malheureusement, tu as toujours le même caractère. J'ai dit, il faudrait peut-être que Dieu fasse quelque chose pour toi. Non, il me dit « je sais ». Et il le sait. Et c'est ça le pire, c'est qu'il le sait. Et lorsque, eh bien, il a des difficultés relationnelles, parce que le caractère souvent nous entraîne à avoir des difficultés relationnelles avec les autres, lorsqu'il a des difficultés relationnelles, eh bien, il est triste. Il est triste. Et il vient me le dire, il dit « Henri, prie pour moi. Mon caractère, ça va pas. » Je dis « eh bien, je prie pour toi, mais toi aussi, faut que tu fasses des efforts. » C'est la Bible qui le dit. « Faut que tu fasses des efforts. » Et il dit « oui, c'est vrai, mais il a beaucoup du mal. » Il a beaucoup de mal. Moi, j'ai envie que Dieu puisse transformer notre caractère pour nous donner un caractère qui, quelque part, eh bien, reflètera celui de Jésus-Christ. Un caractère, qui nous permettra, eh bien, de glorifier Dieu. Parce qu'on peut glorifier Dieu au travers de notre caractère. Mais avant de rentrer dans ce sujet, d'une manière plus claire et plus profonde, je voudrais faire la différence entre deux choses. Parce que souvent, on est entre les deux, on ne sait pas trop. Faire la différence entre la personnalité et le caractère. Ah, ça, déjà là, vous dites, waouh, quelle est la différence? Et il y a quand même une différence. Il y a quand même une petite différence entre la personnalité et le caractère. La personnalité, c'est Dieu qui vous l'a donné. Le caractère, souvent, se l'est forgé. Comprenez ce que je veux dire? La personnalité, elle nous vient de Dieu. Moi, je ne pense pas que Dieu veuille obligatoirement changer notre personnalité. Quand je vois un homme tel que l'apôtre Paul, il avait une sacrée personnalité. Et je trouve dans les épîtres, lorsqu'il parlait, lorsqu'il écrivait, eh bien, on voyait que sa personnalité, elle était là. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Paul. Il avait une personnalité bien définie. Et je crois que cette personnalité, c'est Dieu qui lui avait donné. Pour marquer un petit peu l'idée de la personnalité, j'ai découvert un petit peu différents types de personnalités. Et on va essayer de les voir ensemble. Premier type, il est sanguin. Les sanguins. Je ne parle pas des champignons. Hein. Les sanguins. Hein. Alors la définition des sanguins, c'est quoi? Eh bien, ce sont des personnes... Vous allez être étonné par les définitions, parce que ce n'est peut-être pas tout à fait ce que vous croyez. Ce sont des personnes dont les émotions sont à fleur de peau, ça on le sait. Elles sont démonstratives, elles aiment transformer chaque tâche en une partie de plaisir. Elles aiment la compagnie des autres. Ouais, c'est la définition en ce qui concerne les sanguins. Deuxième personnalité, les flegmatiques. Vous allez penser, voilà, les Anglais. Hein. On pense aux Anglais tout de suite, hein. C'est bizarre. Hein. Alors, la définition est celle-ci. Pour ces personnes, rien n'est grave. Elles s'accommodent de toutes les situations. Elles n'aiment pas les conflits. Elles sont calmes. Elles font des choses quand elles sont obligées de les faire. Okay. En général, il est assez facile de s'entendre avec elles. En général. Puis il y a une autre personnalité, les mélancoliques. Les mélancoliques. Alors là, vous voyez là, avec la guitare et tout ça, sur le, hein, le mélancolique. Hein. En fait, ce sont des personnes réfléchies, les mélancoliques, qui prennent les choses au sérieux, qui aiment l'ordre, qui aiment les méthodes. Voilà ce qu'est un mélancolique. Et puis, il y a les colériques. Ah, pas les coléreux, les colériques, d'accord? Ce sont des personnes ambitieuses, généralement. Elles ont une personnalité ouverte et optimiste. Elles aiment affronter les obstacles. Elles aiment atteindre les objectifs. Alors là, vous êtes un petit peu surpris par ces définitions. Alors, je les ai cherchées et c'est des définitions que je suis allé voir dans des dictionnaires vraiment qui concernent eh bien, les différentes personnalités. Donc, on voit qu'on est un petit peu surpris. Alors, ce qui peut arriver, eh bien, c'est qu'il y ait des associations comme ça de personnalités. Hein, vous avez des gens eh bien, qui sont un petit peu mélancoliques, mais aussi un petit peu colériques. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Mais la personnalité, je pense que Dieu nous l'a donnée. Dieu nous l'a donnée. D'ailleurs, il est dit dans le psaume 139, verset 15, un psaume magnifique, le psaume 139, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » C'est toi qui as formé mes reins. Mes reins, en sens figuré, en tant que siège de l'émotion et de l'affection. Quand on regarde les enfants, personnellement, on a eu deux filles. Je peux vous assurer qu'on leur a donné le même amour, qu'on a été présents de la même manière pour toutes les deux, qu'on leur a donné la même nourriture. Qu'elles ont vécu sous le même toit. D'accord? Elles ont grandi sous le même toit. Et pourtant, deux personnalités totalement différentes. Deux personnalités. Et je suppose, les enfants comme ça, je pense que vous avez vécu ça aussi avec vos enfants. Hein, des fois, c'est comme ça. Les personnalités sont différentes. Et parfois, je me retrouve avec des gens, même avec des frères, des sœurs qui sont sincères et qui me disent « Oh, je voudrais être lui, je voudrais être elle. » Des gens qui voudraient perdre leur personnalité. Hein, pour avoir une autre personnalité. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein, il y a quelqu'un qui a dit ceci à juste titre, à juste raison, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Je trouve que c'était une belle réflexion. Surtout les jeunes aujourd'hui, vous savez, on parle avec eux, ils sont là, « Je voudrais... »
Non, non, sois toi-même. Par contre, développe le caractère de Dieu en toi. Développe le caractère de Dieu en toi. Alléluia. La personnalité, la diversité, c'est la marque de fabrique de Dieu. Moi, j'aime de voir l'Église de Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une diversité extraordinaire. Et c'est la marque de Dieu. C'est la marque de la création de Dieu, n'est-ce pas ? Quand la Bible parle, par exemple, de la sagesse de Dieu, elle parle de la sagesse infiniment variée ou diversifiée de Dieu. Dieu aime ce qui est diversifié. Dieu aime la diversité. Si vous prenez la création, regardez les fourmis. Il y a environ 12 000 espèces différentes de fourmis. C'est incroyable, ça. C'est extraordinaire. C'est la diversité de Dieu. Les papillons, 150 000 espèces différentes. C'est la diversité que Dieu veut voir. Amen, alléluia. Alors, ta personnalité, tu l'as. Par contre, ton caractère, eh bien, celui-ci, eh bien, peut être changé et transformé. S'il y a une chose qui doit changer lorsqu'on vient à Jésus-Christ, c'est également notre caractère. Dieu change notre vie, Dieu change notre cœur, Dieu fait une œuvre extraordinaire, merveilleuse en chacun d'entre nous, mais il veut aussi travailler notre caractère. Il veut travailler notre caractère. Amen. Ça, c'est sa grâce. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut travailler notre caractère ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce caractère que nous avons parfois, eh bien, met à mal le plan de Dieu pour nos vies. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens, on sent qu'il y a un potentiel en eux. On sent que Dieu est prêt à les utiliser. Dieu est prêt à faire quelque chose avec eux, mais qu'à cause de leur caractère, eh bien, il ne peut pas parvenir à ses fins. Il y a des hommes de l'Écriture, de la Bible, eh bien, qui, à cause d'un manque de caractère ou une déficience au niveau du caractère, ou une défaillance au niveau du caractère, sont passés à côté du plan de Dieu. Il y a un homme auquel je pense qui s'appelle Samson. Vous connaissez tous Samson. Samson, il vivait dans des temps difficiles, le temps des juges. C'était un temps particulier, n'est-ce pas ? On sait très bien que le peuple, eh bien, à ce moment-là, eh bien, agissait d'une manière pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Et Samson, eh bien, est né d'une manière miraculeuse, puisque ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et là, Samson est venu au monde, et son nom, Samson, veut dire petit soleil. Quelque part, il était appelé à briller. Il devait refléter quelque chose. Il devait refléter surtout la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il l'a manifestée. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se saisissait de lui, il était capable d'exploits extraordinaires. Par contre, on voit très bien qu'à cause de son caractère, eh bien, les choses que Dieu avait prévues, eh bien, ont empêché, eh bien, le plan de Dieu d'aboutir. Il avait une certaine instabilité, nous le savons, nous le voyons dans une histoire. Un caractère instable, un caractère impulsif, un caractère eh bien, qui manquait de maîtrise. Et moi j'aime à dire que quelque part notre caractère peut déterminer notre destinée. Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Alors j'ai des gens, moi j'ai des jeunes là, en ce moment sur l'église, j'ai des jeunes qui viennent me parler de ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce qu'ils ont sur le cœur. Oui, je veux faire ça, je veux travailler pour Dieu, je sens que je suis appelé eh bien, à faire ceci, à faire cela pour Dieu. Alors je mets en avant eh bien, déjà certains traits de leur caractère et là ils disent, ça grince déjà. Ah, il faudra que je change là, hein ? D'accord, ma passivité un petit peu, ma paresse, il faudra que ça disparaisse. Mon caractère, oui, il faudra te mettre au boulot là un peu, hein. Eh oui, il faudra user un petit peu les genoux là, il faudra prier un petit peu là, hein. C'est bien beau de dire, ben voilà, j'ai reçu ça de Dieu, mais hey, il faut aussi eh bien, que tu te donnes les moyens, quelque part, eh bien, d'aller jusqu'au bout de ce que tu as reçu. Et ça, c'est important, C'est pour cela que Pierre dit qu'il faut une démarche intentionnelle, personnelle pour changer. Faites tous vos efforts. Il y a un effort à faire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce n'est pas mon truc de faire des efforts, mais pour grandir avec Dieu, il faut faire des efforts. Bien sûr, on s'attend à ce que Dieu fasse une œuvre en chacun de nous. Bien sûr, il y a des choses eh bien, que nous n'arriverons jamais à faire, nous-mêmes. Mais il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Alors que Dieu nous aide. Est-ce que vous avez bon caractère ? Je l'espère, personne ne répond. Est-ce que vous avez mauvais caractère ? Ne gardez-le pour vous, hein ? Avez-vous du caractère ? Hein ? Avez-vous du caractère ? Au fait, c'est quoi avoir du caractère ? Bien, si on pose la question en cherchant une réponse biblique, moi j'ai trouvé ça comme réponse, on peut peut-être le même, voilà, la définition biblique, c'est la faculté ou la force de choisir la bonne attitude face aux événements de la vie. Ah, c'est ça, avoir la force de caractère ? C'est ça, avoir le caractère que Dieu veut ? Eh bien, oui, c'est ça. C'est ça. Avoir la bonne attitude face aux événements eh bien, qui peuvent survenir dans notre vie. Est-ce que je suis eh bien, de ceux eh bien, qui, quelque part, sont largement dominés par les émotions, par les sentiments? Est-ce qu'on est des réactifs, hein? Il y a des gens, eh bien, qui réagissent tout de suite et tout ça, hein, d'une certaine manière. Et parfois, eh bien, nous sommes victimes de notre caractère. Et si nous, on ne le voit pas, les autres le voient. Vous le savez, hein, ça? Vous savez qu'on est observé? Eh oui, on est regardé. Christ veut que nous puissions changer. Christ veut que nous puissions être transformés. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que nous avons la faculté d'avoir la bonne attitude face aux événements de la vie, avec une grande vérité. Cette grande vérité, celle-ci, c'est que nous avons tous le choix de nos attitudes, d'autant plus que nous sommes devenus en Christ de nouvelles créatures. Quelqu'un du monde qui réagit d'une certaine manière, qui a un certain caractère, je peux le comprendre. Moi, j'étais comme lui, j'étais comme eux. Mais à partir du moment où Christ est ma vie, les choses ont changé. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est beau, hein? C'est une belle parole, hein? Mais pour qu'elle s'applique réellement, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Je vous donne un exemple, c'est que vous êtes un dimanche matin ici dans ce lieu en train de louer le Seigneur. Vous êtes bien, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes heureux, vous bénissez le Seigneur. Et là, on est dans la communion fraternelle, c'est extraordinaire. Et puis pendant que vous êtes là, dans ce lieu, en train de louer le Seigneur, il y a quelqu'un là sur le parking qui rentre parce que la porte est restée ouverte. Enfin, il y a quelqu'un qui rentre et qui fracasse votre voiture, qui casse la vitre pour vous voler peut-être les choses que vous aviez laissées plein de confiance en apparence comme ça. Surtout, faites jamais ça si vous venez à Marseille dans le 3e, parce que vous êtes sûr de repartir sans rien, hein. Mais donc on vous vole tout ça. Et puis vous terminez le culte, vous descendez, vous prenez la voiture. Non, la vitre est cassée, on m'a volé mes affaires. Alors les affaires, à la limite, c'est pas trop grave. Mais vous commencez à vous dire non, c'est pas possible. Il va falloir que j'aille au commissariat déposer une plainte. Il va falloir demain que je téléphone à l'assurance, parce que le dimanche, les assureurs n'essayent même pas de les joindre. Il va falloir demain que je téléphone à l'assurance. Demain, je ne vais pas avoir la voiture pour aller travailler. Comment est-ce que je vais faire? Oh là là, et puis voilà quoi. Hein, c'est ça. On va commencer à réagir eh bien, de cette manière-là. On va s'imaginer plein de choses. Bien sûr, on va avoir d'excellentes pensées pour celui qui nous a fait ça, hein, c'est sûr. Enfin, ça va être comme ça. Pourtant, la Bible nous dit ceci, l'apôtre Paul dit aux Romains, cette parole, on peut la mettre, aux Romains 8, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oh, non. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Waouh. Avoir la force de caractère, c'est peut-être réagir sur la base de la parole de Dieu. Et de se dire peut-être, « Mais Seigneur, tu as permis, il y a peut-être quelque chose à faire. » Peut-être que le Seigneur va t'amener devant un policier qui passe un sale moment et auquel tu pourras parler de Jésus. Peut-être que le Seigneur va t'amener au téléphone à parler à ton assureur, parce que c'est possible, hein, à Dieu tout est possible, parler à ton assureur de ta foi. Si on va te dire, monsieur, il va nous falloir un mois pour arranger tout ça. Non, monsieur, moi je crois en Jésus, ça va venir plus vite. Peut-être qu'il va falloir que tu prennes le bus pour aller travailler, puisque la voiture sera peut-être immobilisée. Et que là, dans le bus, tu vas faire une rencontre. Peut-être que pour toi, qui aspire à l'âme sœur, tu vas rencontrer une chrétienne ou un chrétien dans le bus. Et ça va être l'homme ou la femme de ta vie. C'est pas écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est écrit, non? On n'est pas d'accord avec ça? Eh oui, tout à fait. La force de caractère, c'est ça. C'est ça, quelque part. C'est savoir réagir de la bonne manière, de la bonne manière. Amen. C'est reprendre la main, c'est maîtriser eh bien, nos émotions, nos sentiments, de dire Seigneur, tu as certainement... Je sais que ce n'est pas facile, attention, ce que je vous dis, je me parle à moi aussi, hein. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. Mais c'est de reprendre la main, ne pas laisser nos émotions, nos sentiments eh bien, prendre le dessus. De dire Seigneur, allez, je vais me servir de cette situation. Toi, tu sais changer le mal en bien, eh bien ensemble, on va changer le mal en bien. On va faire de belles choses pour ta gloire. Amen, alléluia. Pourquoi est-il important de bien choisir nos attitudes? C'est un des titres. Eh bien, premièrement, c'est que nos attitudes influencent le déroulement de notre vie. Elles influencent le déroulement de notre vie. Un psychologue a dit ceci, alors je ne suis pas trop pour les psychologues, mais enfin bon, ça sert des fois. Et il dira ceci. La plus grande découverte de notre génération est que les êtres humains peuvent changer le déroulement de leur vie en changeant leur attitude et leur état d'esprit. Et là, je me suis dit, mais quelque part, il n'a pas tort. La Bible, c'est un petit peu ce qu'elle nous dit. Hein. Eh oui. La vie dit un peu ça. La façon dont se déroule notre vie ne dépend pas de la chance, vous le savez. La façon dont se déroule notre vie ne dépend pas de personnes que l'on rencontre. Le déroulement de notre vie va dépendre de nos attitudes la plupart du temps. Mais oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les bonnes personnes parfois en face de nous et ne pas avoir la bonne attitude. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Un exemple. Je veux dire, parfois, on a une bonne personne qui vient nous donner un conseil spirituel. Et on peut avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de cette personne. Pourtant, c'est un conseil spirituel. C'est un conseil de Dieu. Vous voyez que les attitudes, eh bien, c'est important. C'est important. Souvent, le problème, eh bien, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est l'attitude que nous avons face au problème. Deuxièmement, c'est que notre réussite ne dépend pas de nos aptitudes, mais de nos attitudes. Ne dépend pas de nos aptitudes, mais de nos attitudes. Un exemple, Joseph, premier ministre d'Égypte. Pas mal, ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est à ce stade. Hein? Hier, j'étais surpris, vraiment. Il y avait une dame qui est là, une mamie qui était là. C'était une des seules qui n'était pas maghrébine, d'ailleurs. Elle était là. Et elle va voir des frères qui étaient là pendant la... Et dit, oh, le monsieur, là, je le connais. Alors, les frères disent, ah bon, vous le connaissez ? Vous le connaissez d'où ? Oui, c'est le premier adjoint au maire. C'est le premier... Alors, elle m'a pris pour le premier adjoint au maire. Et à tous ceux qu'elle rencontrait, là, dans la parc, elle disait, c'est le premier adjoint au maire. Et les frères disaient, oui, 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 oui. Et après, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, t'étonne pas si des fois t'as des doléances, si on vient te demander certaines choses. Moi, je comprenais rien, là, mais voilà, elle m'a pris pour le premier adjoint au maire. Enfin, bon, j'ai été premier adjoint durant une soirée, et franchement, ça faisait plaisir. Mais Joseph était premier ministre d'Égypte. Premier ministre d'Égypte. C'est une belle réussite. Mais ce n'était pas à cause de ses aptitudes. Ça a été à cause de ses attitudes. À cause de ses attitudes. Eh oui. Face à la jalousie de ses frères, il a eu la bonne attitude. Il a eu de l'incompréhension, mais il a eu la bonne attitude. Face à la calomnie de la femme de Potiphar, il a eu la bonne attitude. Il a eu la bonne attitude. Face à l'ingratitude du collègue en prison, il a eu la bonne attitude. Moi, je crois qu'il aurait pu répondre à tout cela par différentes choses. Il aurait pu avoir de la rancune, vous ne croyez pas ? Il aurait pu être rancunier. Il aurait pu avoir de l'amertume. Il aurait pu avoir cela. Il aurait pu avoir de la frustration. Il aurait pu avoir de la victimisation. Ouais, regardez-moi, j'ai vécu ça, ceci, cela. Il aurait pu avoir de la révolte, de la rébellion. Non, non, ce ne fut pas ce cas-là. Ce ne fut pas cela. Non, non, non. Il a eu la bonne attitude. Quelqu'un a dit, notre attitude détermine notre altitude. Eh oui. Vous savez, parfois, reconnaissons que ça vole pas très haut, hein, spirituellement. Hein. Et là, on voit tout de suite les dégâts. Quand on est en forme, ça va. Mais on a besoin vraiment de se tenir devant Dieu. On a vraiment besoin du secours de Dieu. Puis changer d'attitude. Oui. Puis changer d'attitude. Alors, pour changer d'attitude, il y a un élément important. Pour moi, c'est très important. Et on l'oublie souvent. On pense que c'est pour les gens qui s'approchent du Seigneur. Et après, nous, on l'a vécu, on l'a connu, on l'a fait, donc c'est oublié. Moi, je pense qu'un élément important, c'est la repentance. C'est la repentance. Eh oui. C'est quoi la repentance ? C'est un changement, il y a quelque chose qui s'est opéré, voire même un changement de mentalité, n'est-ce pas ? Eh oui, ça touche notre caractère. La repentance est quelque chose d'excellent. Et elle se définit peut-être en trois étapes importantes. La première étape, eh bien, de cette repentance, c'est reconnaître notre responsabilité. Si vous êtes comme moi, on a plutôt tendance à dire c'est la faute de l'autre. Non ? Pas vous ? Mais oui, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Hein ? C'est jamais notre faute. Mais quand on reconnaît, eh bien, notre responsabilité, les choses, eh bien, vont changer. Et il y a des gens, vous savez, ils sont là, ils ont leur problème de caractère, ils ne veulent pas reconnaître, eh bien, qu'ils ont un problème avec leur caractère. Alors c'est toujours les autres. Et ces gens-là, eh bien, vous les voyez dans l'église durant un temps, et puis ils disent non, non, mais bon, je vais dans une autre église. Mais en vérité, ils transportent leur problème, ils transportent leur caractère. Ils changent d'église. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez changer de mari, vous pouvez changer de femme, vous pouvez changer de voiture, vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer d'église. Si votre caractère ne change pas, les mêmes choses reviendront. Les mêmes problèmes reviendront. Les mêmes problèmes. Mais reconnaître ce que l'on est, ça, c'est une grâce de Dieu. Dire, Seigneur, je veux que tu agisses. Je veux que tu travailles en moi. Je veux que tu changes mon caractère. Alléluia. Vous savez, s'il y a un endroit où vraiment on pratique... je veux dire, le changement de caractère, souvent, c'est dans le couple. Quand dans un couple, vous avez deux... Quand vous avez dans le couple deux caractères, vous savez, de sacré caractère. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Et Seigneur, hein, comme on dit chez nous, aide-moi, ami. Aide-moi, Seigneur. Mon épouse et moi-même, on s'est connus avant de connaître le Seigneur. Ben heureusement qu'on a connu le Seigneur. Parce que c'était catastrophique. C'était l'échec assuré. Mais une fois que Jésus est venu dans notre cœur, quand même, on était heureux et il a changé des choses. Il a remis des sentiments, des choses vraiment merveilleuses, encore mieux que ce qu'on avait connu. Mais en même temps, on a senti que le Seigneur voulait que notre caractère soit travaillé. Parfois, d'ailleurs, encore, là, je sens ma femme me le fait remarquer. Henri, ton caractère? Ok. Des fois, je lui fais remarquer aussi. On est à égalité. Et je crois que quelque part, vous savez, on déplace comme ça. On déplace le... Quand on veut pas changer nous-mêmes, mais qu'on essaye de changer les choses autour de nous, on déplace le problème. Vous connaissez l'histoire, le syndrome du doigt cassé. Vous connaissez cette histoire, hein? C'est un gars qui va voir son médecin et il est là, il dit, et avec son doigt, il dit, docteur, j'ai mal là. Enfin, partout où il touchait avec son doigt, il avait mal. Et il dit, je suis en train de mourir, certainement. Non, le docteur dit, on va passer une radio, vous avez mal au doigt, certainement. Hein? Et on déplace comme ça le problème. Non, il faut que les choses changent. Amen. Et il faut, deuxièmement, une prise de conscience. Une prise de conscience qui doit se traduire par un désir de changer. Parce que c'est bien de dire, ah, mon caractère. Mais on ne parle pas de mon caractère. Hein? Ok, mais voilà, quoi. Ça fait 20 ans, comme le frère que je connais, ça fait 20 ans, il ne faut pas lui parler de son caractère, mais c'est le même. Non, il faut que ça se traduise par un désir de changer. Vous savez, il y a cette parole que Dieu, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 48. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ok ? Eh ouais, c'est la barre haute. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est impossible. Alors, est-ce que Jésus serait en train de nous demander quelque chose d'impossible ? Deux fils. Ils sont assurés, tes fils ? C'est bon ? Merci. J'ai la bougeotte. Est-ce que Dieu serait en train de nous demander quelque chose d'impossible ? C'est vrai, être parfait comme Dieu est parfait, comme... Franchement, c'est... Moi, je me dis, Henri, allez, t'as besoin de travailler encore. Mais je sais que j'y arriverai jamais. En fait, Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas en train de nous dire, allez, il faut que vous soyez parfait comme ça. Non, Jésus est en train de nous montrer... Eh bien, qu'il y a un niveau à atteindre. Quelque part, ce qu'il veut voir, c'est dans nos cœurs ce désir d'arriver à ce niveau. Ce désir, ce qui compte pour Jésus, c'est plus le désir que le fait d'y arriver. Ce désir, cette volonté de vouloir être parfait comme notre Père est parfait. Donc, ce que Jésus voudrait nous dire, c'est que vous devez aspirer au meilleur. Et quand Jésus dit ça, je trouve qu'il place la barre très haute. Très haute. Vous savez qu'il y a... Vous connaissez ce sport ? Tu peux mettre... Normalement, il y a une image. Vous connaissez ce sport ? Le saut à la perche, d'accord ? Ils ont fait une expérience, c'est une expérience moi qui m'a étonné, qui m'a vraiment surpris. Vous savez que les sauteurs, là, ils mettent la perche de plus en plus haut pour aller, c'est un objectif, ce fils cet objectif. Et les meilleurs, maintenant, il y en a qui ont dépassé 6 mètres. Mais ils ont tenté une expérience, et c'est étonnant cette expérience. C'est qu'ils ont dit, après ils ont pris les sauteurs, ils ont dit, voilà, vous allez sauter maintenant sans qu'il y ait la barre. Sans qu'il y ait d'objectif. Et même les meilleurs, sautaient environ 20 cm en dessous de ce qu'ils avaient sauté. Parce qu'il n'y avait pas d'objectif. Et c'est ça, Dieu veut que nous ayons des objectifs. Eh oui. Et il veut nous aider à franchir ces barres. Il veut nous aider à franchir ces objectifs, à arriver à nos objectifs. Parce que sans lui, on ne peut rien. Mais il faut le demander, faites tous vos efforts. Et quel effort Dieu me demande ? Un effort peut-être de faire un travail aussi sur moi. De dire, Seigneur, je veux me tenir devant toi. Quand je lis, mais on ne va pas peut-être le lire, on va le passer. Mais dans Ésaïe 53, quand il est parlé de Jésus, il est parlé du travail de son âme. On ne peut pas dire que Jésus avait besoin d'être travaillé à ce niveau-là. Il avait le caractère parfait de Dieu, n'est-ce pas ? Mais quelque part, il nous montre que le fait de se tenir régulièrement dans la prière. Parce que Jésus, si vous regardez son parcours, tous les matins, il était dans la prière. Avant de commencer sa journée, il priait. Avant d'aller à Golgotha, il était à Gethsémané, il était en train de prier. Et le résultat, c'était quoi ? C'était que lorsqu'il était sur la croix, alors qu'on l'avait méprisé, alors qu'on l'avait rejeté, alors qu'on se moquait de lui, est-ce qu'il a, eh bien, laissé naître de l'amertume, de la rancune dans son cœur ? Non ! C'était pardonne-leur. Ce brigand qui, quelques minutes auparavant, eh bien, était en train d'insulter avec l'autre, ils se montaient le job, les deux, là. Hein, ils insultaient Jésus. Et au bout d'un moment, il y en a un qui réalise que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il va se tourner vers Jésus en lui demandant grâce. Jésus va lui faire miséricorde. Jésus va lui faire grâce. Il aurait pu, au travers des paroles qu'il avait entendues quelques minutes auparavant, eh bien, garder rancune ou rancœur vis-à-vis de cet homme. Mais non. Et tout cela, c'est parce que Jésus s'était préparé. Je ne sais pas comment vous réagissez, quand on vous crucifie avec des paroles. Parce que parfois, on nous crucifie avec des paroles. Hein. Ça arrive, hein, qu'on nous fasse du mal comme ça. Comment est-ce que je réagis ? Comment est-ce que je réagis ? Jésus a eu les bonnes attitudes, à nous d'avoir les bonnes attitudes. Amen. Alléluia. Un deuxième point important pour nous aider, c'est le fruit de l'esprit. Alors, j'avais mis aussi la version Darby. Voilà, on va continuer. Vas-y, la suivante. La suivante. Aussi. Le fruit de l'esprit. Amen. Est-ce que ça peut servir, le fruit de l'esprit ? Hein, ça sert, hein ? Eh oui. Et dans le fruit de l'esprit, il y a quelque chose que l'on appelle la maîtrise de... Hein ? Tiens. Ou la tempérance, maîtrise de soi. C'est le même mot, n'est-ce pas ? Définition de la tempérance. On va la lire. Force intérieure qui permet de maîtriser, de contrôler tous nos sentiments, nos émotions et nos réactions. C'est ça, la tempérance, selon la définition. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ habite en vous ? Oui, allez-y, hein, c'est pas un piège. Hein. Oui, vous croyez que Jésus habite en vous ? Qu'il habite dans vos cœurs ? Ok. Est-ce que vous croyez que parce que Christ habite dans vos cœurs, le Saint-Esprit, l'Esprit est en vous ? Oui. Est-ce que vous croyez que parce que l'Esprit est en vous, le fruit de l'Esprit est en vous ? Normalement, ça va avec le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. D'accord ? L'Esprit en vous, si vous avez le fruit de l'Esprit, d'accord, vous avez la tempérance. Alors quand on prie, Seigneur, donne-moi la tempérance, il y a un problème là. Parce que la tempérance, quelque part, on l'a. Mais le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas. C'est un petit peu comme certains muscles de notre corps. Est-ce que vous voyez combien vous avez de muscles dans votre corps ? Non ? Bernard, tu dois le savoir. 639. 639 muscles vous avez. Eh, vous pouvez dire maintenant quand vous sortez, je suis musclé. Hein. Ok ? C'est sûr. Mais il y a beaucoup de muscles qui ne sont quasiment jamais utilisés, dont on ne se sert jamais. Et pour réveiller les muscles, ce qu'on appelle les muscles dormants, suffit de faire une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, vous n'avez pas l'habitude de peindre. D'accord ? Vous prenez le rouleau et vous commencez à peindre chez vous. Est-ce que le lendemain, vous ne croyez pas que vous avez un cancer qui vient de se déclencher là, dans un coin ? Hein ? Vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Hein ? La diapo suivante nous montre une épaule, hein, avec tous les muscles. Hein. Ouais, un petit peu, il y a quelques muscles. Alors moi, il y a quelques-uns, je connaissais ces muscles. Par contre, le petit rond, je ne savais même pas qu'il existait. Hein. Connaissez le petit rond ? Connaissez ? Pas le petit rond, le petit rond. Hein. Ok ? Le rhomboïde, le deltoïde, le sous-épineux. Le sous-épineux. Et là, eh bien, quand vous faites certains gestes, eh bien, ceux-là, ils se réveillent. En fait, ils étaient déjà là, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas mis en vous au moment où vous étiez en train de peindre. Ils étaient déjà là, mais ils dormaient. Il dormait. Et moi, je crois que, quelque part, ce que Dieu a placé en nous, au travers de son esprit aussi, et si Dieu a mis en nous, eh bien, la tempérance, eh bien, il faut l'utiliser. Il faut la solliciter. Eh oui. Et ça demande, eh bien, je dirais, un travail. Ça demande de la prière, parce que le troisième point, c'est la prière. Pour changer, il faut la prière. C'est ça qui est important. Et ça nous demande, eh bien, de nous tenir devant Dieu et de demander à Dieu vraiment, eh bien, d'agir en nous. D'agir en nous. Oui, Seigneur, le fruit de l'esprit, je le connais. Mais je ne veux pas seulement le connaître, je veux le vivre. Je veux l'expérimenter. Et vous savez, pour expérimenter le fruit de l'esprit, ça se fera au travers des circonstances de la vie. Au travers des circonstances, ça ne se fera pas si on reste toute notre journée dans la chambre à prier. Ça va pas. Non, c'est quand on va être au contact des autres, au contact des situations, au contact eh bien, de certains problèmes même. C'est là que va se révéler en nous si eh bien, les muscles que nous avons eh bien, sont actifs, sont réveillés ou s'ils sont dormants. Vous voyez qu'il y a des choses qui dorment en nous. C'est pour ça qu'il y a dit « réveille-toi, réveille-toi ». Il y a des choses qui dorment. On a besoin de réveiller certaines choses. Il y a des choses qui ont besoin de se réveiller pour qu'on puisse eh bien, vraiment avoir le caractère de Christ. Si vous laissez dormir tranquillement, paisiblement, eh bien, ce fruit de l'esprit en vous, la tempérance en vous, si vous laissez, eh bien, je vais vous dire quelque chose, vous allez souffrir, vous allez également faire souffrir ceux qui sont autour de vous. Eh oui, c'est terrible de dire ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, on a le choix de nos attitudes, mais une des attitudes la plus importante, moi je pense, pour changer, c'est la prière. C'est la prière. Combien c'est important la prière. C'est important la prière. Je pense que la prière, souvent, là, on la définit simplement, eh bien, je demande à Dieu et puis voilà, c'est terminé. Moi, je crois que ça va plus loin, la prière. Ça va vraiment dans la profondeur, eh bien, c'est une dimension spirituelle, ça va dans les profondeurs du cœur de Dieu. On est là, on est dans un cœur à cœur avec Dieu et on veut que Dieu agisse, bien sûr, mais on veut que Dieu aussi nous transforme dans la prière. C'est tout un processus et Dieu peut le faire. Et vous savez, j'ai remarqué, maintenant, c'est peut-être un réflexe que j'ai parce que il nous arrive souvent, je ne sais pas toi Cyril et Bernard aussi, mais je pense que ça vous est déjà arrivé, il nous arrive d'être confronté parfois à des situations où on serait vraiment, vraiment, on aurait envie d'être réactif. Mais avec l'aide de Dieu, moi je l'ai été, j'ai commis des erreurs. Mais avec l'aide de Dieu, eh bien, je prends un petit peu de recul, je prie. Et je dis Seigneur, moi je veux dire la vérité. Je veux dire les choses que tu veux que je dise. Non pas les choses que je dois dire moi, mais les choses que tu veux que je dise. Et je prie. Combien on a besoin d'être aidé. Et la prière est pour nous un secours. Alors, la force de caractère, ben, c'est pas simplement de dire, voilà, moi je te résiste, je fais ce que je veux, je suis là, et puis tu me prends comme je suis. Non, la force de caractère, c'est d'avoir, eh bien, je dirais, le caractère de Jésus-Christ. Avoir les sentiments. La Bible ne nous dit-elle pas, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments. Moi, j'ai envie d'avoir les sentiments de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a encore du travail. Hein. Je sais qu'il y a encore du travail. De toute façon, quand j'ai l'impression d'être arrivé au bout, moi, j'ai quelqu'un qui vit à côté de moi, qui me rappelle qu'il y a encore du travail. Il y a Jésus, mais il y a aussi ma femme. Elle me le dit. Henri, là, c'est pas bon, ça. Eh oui, je sais que c'est pas bon. Mais le Seigneur nous aide. Parce qu'on compte sur sa grâce. On compte sur sa grâce. Hein. Parce que sinon... Mais je veux faire des efforts. Je veux faire ce que dit l'apôtre Pierre, fais des efforts. Allez, je veux faire un effort. Seigneur, je fais un effort, je viens devant toi, je te demande grâce, je te demande miséricorde, parce que j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi. Et s'il faut, eh bien, je lui demande du secours aussi. Je dis à ma femme, eh bien, prie pour moi, parce qu'en ce moment, eh bien, je sens que eh bien, je suis en lutte, je suis en combat, eh bien, prie pour moi. Et si eh bien, j'ai besoin d'autres personnes, je demande à des personnes de confiance, je dis priez pour moi, les frères, priez pour moi, les sœurs. Priez pour moi, j'ai besoin. Que Dieu agisse en moi. Et moi, je crois à la puissance de la prière. Peut-être un pasteur, je ne sais pas, ça existe encore des pasteurs qui croient, comme nous, là, comme nous trois, là, à la puissance de la prière, si, ça existe, alléluia. Non, je sais que ça existe. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, c'est ce que je voulais partager d'une manière toute simple avec vous. Dieu veut changer, veut transformer notre caractère. Et même s'il y a eu de l'amélioration, moi, j'aime le mot qui va avec Jésus. Ce n'est pas le mot amélioration avec Jésus. C'est le mot transformation. C'est le mot transformation. Transforme-moi, Seigneur. Et je le dis pour moi en premier, je vous assure. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ce temps, pour ce moment. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes, la miséricorde que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous tenir dans ce lieu. Seigneur, nous avons pu faire monter vers toi des louanges, Seigneur, notre adoration. Seigneur, nous avons pu faire monter vers toi des prières parce que tu es celui seul en qui nous voulons nous confier, à qui nous voulons tout remettre, Seigneur. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est en toi que nous avons tout pleinement. Seigneur, merci parce que nous savons encore combien nous avons besoin de toi. Seigneur, merci d'agir au plus profond de nos cœurs. Mais également, eh bien, d'agir au sein de notre caractère, Seigneur. Seigneur, je veux encore que tu puisses me transformer. Je veux encore, eh bien, ressembler, encore plus ressembler à ta personne divine, Seigneur. Je veux vraiment avoir tes sentiments, avoir ton caractère, Seigneur. Merci encore, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Parce que toi seul es capable, eh bien, d'accomplir ces miracles dans les vies. Je te loue et je te bénis dans le beau nom de Jésus. Bénis, Seigneur, à tous tes bien-aimés qui sont là, Seigneur. Merci de les encourager. Merci de les garder. Merci de les fortifier, Seigneur, dans ton amour. Et merci de les aider à progresser en toi, Seigneur. Et qu'ensemble, eh bien, nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Et qu'ensemble, eh bien, Christ soit glorifié, Seigneur, au sein de ton Église, Seigneur, et aussi dans cette ville d'Arles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.